notamment sur cette thématique des archives, qui est centrale pour nous. Problématique des archives, bah parce que, on l'a déjà dit, il n'y a pas d'archives punk, institutionnellement parlant. Les archives ne nous attendent pas sur les étagères des archives nationales, municipales, etc. Et qu'on a besoin de réfléchir. Roy l'a montré aussi à sa manière. Beaucoup d'entre nous en ont déjà parlé. À la manière avec laquelle on peut travailler à collecter ces archives, classer ces archives et donner du sens à ce matériau. Je précise que une des ambitions véritablement du projet, dans un horizon que nous espérons pas trop lointain, c'est quand même d'arriver, ça a été dit ce matin, à créer un centre de conservation d'archives de culture alternative. Donc ce projet-là est vraiment quelque chose d'ambitieux, mais qui nous tient en quelque sorte. Alors, on a réuni pour cette table ronde des acteurs qui ont tous des choses à dire par rapport à cette question, soit parce qu'ils sont investis de par leur fonction ou de par leurs travaux scientifiques sur cette question des archives, soit parce que pour une raison ou une autre, ils sont acteurs, musiciens, femmes, hommes de radio, voilà, et que cette question des archives est une préoccupation, en tout cas c'est quelque chose qui compte, qui est présent dans leur vie, dans leur trajectoire. Je présenterai peut-être les gens au fur et à mesure, enfin je peux le faire rapidement, donc Pierre Rabou de notre projet, qui est notre post-doctorant, Vincent Boite, qui a été longtemps conservateur en chef de la mission des archives du ministère de la Culture, Monique Blanquet, donc, qui s'est présentée tout à l'heure de la radio FMR, qui fait partie de notre projet et avec laquelle nous avons construit cette collaboration sur les archives de radio FMR. Denis Barthes, batteur de Noir Désir, des Hyènes et de tout un tas d'autres groupes, et qui reviendra peut-être sur ses propres collections, son rapport aux archives, ses mâles avec les archives de Noir Désir notamment. Olivier Mathios, c'est comme ça qu'on prononce, Olivier Mathios, qui est le bassiste qui joue avec Denis dans Les Hyènes, dans Mountain Man et un tas d'autres formations. Et alors, c'est l'invité surprise, mais en répétant l'autre jour, il me dit ouais, c'est super votre projet, mais tu sais que j'avais commencé un projet de collecte d'archives dans les Landes, sur le rock. Donc, Olivier, tu vas venir parler à la table ronde. Voilà. Voilà. Et Arnaud Futur, donc. Chanteur du projet Arnaud Futur, ex-chanteur des Salles Majestés, avec qui pratiquement on a commencé cette collecte au niveau des groupes, puisque on a récupéré grâce à Arnaud 30 ans d'archives du groupe Salles Majestés. 30 ans d'archives, c'est des flyers, des photographies, des démos, des cassettes, du VHS, de tout. Les archives du punk, elles sont là. Et finalement, Arnaud.
Un peu la table ronde des stars, il y a des flashs de partout quand on est là, c'est trop drôle.
Alors, peut-être tout simplement faire circuler le micro et sur un temps de parole assez bref, nous dire déjà peut-être ce que cette idée d'archives évoque pour vous dans vos vies personnelles, ce que ça a engagé de conserver des traces, de les avoir, d'accepter peut-être d'échanger dessus, de les léguer, revenir un petit peu sur cette archive. Alors l'archive, je précise, je pense juste à une image, Nice, et ce trophée qu'on avait gagné en 82. FR3, mais alors pourquoi j'en parle, c'est pas parce qu'on a gagné, c'est parce qu'en fait on a gagné, mais finalement on n'en a pas profité. C'est Caméra Silence derrière qui a enregistré le 45 tours qu'on n'a jamais fait puisque Bertrand s'était barré 6 mois, et derrière il y a gravé à la pointe par Grand Claude, qui était le roi des punks à Bordeaux. C'est comme ça qu'il avait validé le fait qu'on avait gagné, parce que ça avait été dur, on était à la corde avec Caméra Silence. Et donc c'est gravé encore, on regardait ça l'autre fois. Donc voilà une archive. Voilà une archive qui parle d'un moment. Voilà, donc pour lancer un petit peu le débat.
C'est effectivement gravé au cran d'arrêt le soir de ce tremplin. On est arrivé premier, ils sont arrivés deuxième, c'était vraiment très très serré. Et Grand-Claude a pris son cran d'arrêt, et sur la table, il a gravé cette plaque qui était affreuse, une plaque de FR3, qui était, voilà, c'était une sorte de bon point qu'on n'avait pas spécialement demandé. Et voilà, et elle a d'autant plus de valeur, voilà, que quand on la retourne, voilà, la vraie marque, elle est là, elle n'est pas à France 3.
Oui, parce que Grand-Claude est décédé.
Ouais. Oui, et puis avec caméra, c'était, enfin voilà, on avait un parcours qui s'entremêlait un peu, on se croisait souvent sur les concerts, on aimait vachement parce que, attention, Nordest, c'était pas un groupe de punk, mais par contre, c'est le mouvement punk qui nous a permis de monter sur scène et de nous dire, on sait faire 3 accords, on sait faire 2 rythmes, mais on a envie de jouer, on a envie de faire un truc et on va jouer. Et c'est tout ce mouvement-là qui nous a ouvert la porte et qui, j'espère, l'ouvre encore à d'autres gens, de dire, putain, on n'a pas besoin de sortir du conservatoire, c'est très bien d'y être, mais on n'a pas besoin de sortir de cours, de machin, de ça, si on a envie de faire un truc.
Alors moi, je voudrais revenir, parce que Pierre avait préparé quelque chose, juste pour parler de... que tu nous expliques brièvement, pendant ce temps-là, je déroule, du travail que tu as effectué cette année sur 2 fonds d'archives ennemies, parce que moi, je m'étais occupée des fonds de la miroiterie, donc sur Radio Éphémère et puis sur le fond des Salmages.
Alors donc moi c'est vraiment un aspect très pratique de travailler sur les archives. On peut le voir, c'est pas moi, mais l'aspect pratique. Donc voilà, les deux buts principaux, c'est vraiment d'une part d'assurer une conservation optimale de ces fonds qui sont quand même voilà, à la fois extrêmement riches mais fragiles, comme on l'a déjà dit, très vulnérables. Donc la première phase, disons la phase la plus concrète, c'est vraiment de sortir de ces cartons-là pour les mettre dans des cartons avec des meilleures têtes, mais surtout enlever de toutes les fiches plastiques, les fiches verts, voilà, tout ce qui peut endommager les documents. Ce qui est quand même, parce que voilà, même si on a la chance d'avoir beaucoup d'archives qui ont été gardées par soit avec nous sont ont été confiées là, souvent elles sont gardées dans des conditions où voilà, elles commencent à les couleurs se déteignent et tout ça. Donc ça c'est le premier aspect. Et puis après, le deuxième aspect, c'est lui plus scientifique ou de tri, ou vraiment, voilà, notamment sur ce fond de la radio éphémère qu'on a reçu, où c'était 26 immenses cartons, qui est maintenant devenu ces plus petits cartons, où c'était vraiment un travail de tri, enlever voilà, ce qui nous intéresse, ce qui est plutôt de l'ordre du privé, ou ce qui vraiment ne va pas intéresser les chercheurs, et puis ensuite proposer un modèle de classement qui permet autant aux gens intéressés d'arriver facilement à se retrouver ensuite dans ces fonds d'archives s'ils cherchent un concert, telles informations sur la radio, sur le groupe, telle mémoire visuelle aussi avec les photos, mais aussi qui permettent à toute notre équipe, après c'est aussi ça un peu le but, c'est qu'on ait des modèles cohérents que les gens peuvent ensuite reprendre s'ils s'attaquent à d'autres groupes ou à d'autres radios.
Le diaporama c'est du plus sexy au moins sexy, vous voyez à la fin. Donc tout ça est classé, comme a dit Pierre, vu qu'on était ambitieux, grâce à Hyacinthe, on a fait venir je ne sais plus combien d'IMAB, Hyacinthe, 2000 d'IMAB 500, voilà, 500. Donc ça a fait plein de palettes, donc au Centre de musique baroque de Versailles, parce qu'on n'a pas d'endroit où les accueillir, évidemment, je me suis fait hurler dessus, parce que qu'est-ce qu'on faisait de 500 cartons? Bon, ils sont pliés, ils sont dépliés. Enfin, donc il y a eu tout le travail aussi avec Pierre, ça, de plier, enfin de les construire, de construire les boîtes, voilà. De comme on n'a pas d'argent pour faire des fichiers neutres, enfin des dossiers, on a pris du papier et puis des sangles. Donc j'ai aussi plein de sangles dans mon bureau. Je peux attacher toute la salle avec les sangles. Et donc de manière plus sérieuse, voilà ce qu'on a pu faire de ce fonds d'archives qui était quand même conservé dans une mansarde, mais plutôt bien conservé. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'on en a fait.
Bon, peut-être qu'on peut faire circuler la parole sur cette question des archives.
Une première réaction, vous imaginez bien l'émotion que nous pouvons avoir, équipe d'éphémère, d'avoir cette belle opportunité de pouvoir conserver notre histoire. C'est vrai qu'on est parti d'une base empoussiérée quand même, un petit peu empoussiérée, et qu'on a amené ces cartons dans un lieu, l'hôtel des menus plaisirs. Alors quand je racontais ça à la radio, je ne vous parle pas de la réaction, mais j'ai quand même rajouté que c'était là qu'avait été pris le décret de 1789, sur la déclaration des droits de l'homme. Là, tout de suite, tout le monde était rasséréné, ça collait mieux à l'histoire. Et puis, j'ai expliqué que les affiches étaient dans un placard, et voilà. Donc, il y a eu une espèce de soulagement et de, de, vraiment maintenant d'empathie avec ce projet. Ce n'était pas le cas au début, parce que finalement, laisser ces archives, quand c'est une structure collective comme ça, c'est comme une histoire de famille, laisser ses affaires, et ça suscite des tensions. Ah non, on ne veut pas donner ça, non, on ne veut pas laisser ça. Pour finir, les choses ont été embarquées dans ce véhicule et déposées, et maintenant elles sont scrutées par des professionnels, comme je le disais ce matin. Et du coup, il y a une empathie de l'ensemble de la radio, toutes générations confondues, pour cette démarche. Et à tel point que maintenant, on a même mis en place, et c'est un des bénéfices de cette démarche, un archivage de l'aujourd'hui. C'était pas gagné. Et donc, l'histoire va se continuer, et c'est pas rien, parce que on avait gardé tout de l'histoire au début, des 30 ans, 35 ans de cette aventure, mais aujourd'hui, il n'y avait pas forcément un intérêt pour conserver, garder. Il y a eu une sorte de sensibilisation qui s'est faite au niveau des anciens, qui étaient plutôt dubitatifs, ouais, conserver, ouais, muséifier, enfin bon, voilà. Et puis des nouveaux qui disent pourquoi faire. Et puis finalement, ah oui, mais c'est ça l'histoire de la radio, c'est vachement bien, et peut-être qu'on aimerait y revenir dessus, et que ça va susciter des travaux de recherche. Parce que l'idée, c'est aussi qu'ils vont être consultables. Ces sources-là vont être consultables à un moment donné. Donc, franchement, c'est une aubaine. Et je connais bon nombre de structures qui rêveraient de pouvoir faire ça, faire valoriser un fonds comme ça. Voilà. Donc, un grand merci. Et puis, les choses se structurent. Merci beaucoup, Pierre. Parce que quand même, c'était pas évident. Bon, c'est vrai qu'on est en plein de petits cartons là, mais on va s'y retrouver. On va collaborer pour identifier certains documents, forcément. Et ça va nous obliger aussi à travailler ensemble sur l'identification des pièces et tout ça. Donc c'est pas fini, c'est un chantier en fait. C'est vrai, c'est un chantier. Je sais pas si vous voulez.
Ben, Vincent. Alors, du coup, on va parler du deuxième. Oui. On va parler de l'autre fond qu'on a. En fait, c'est l'an dernier, au colloque à la Philharmonie, au bœuf qu'on a fait à FGO, Arnaud, qu'on ne connaissait pas, traînait par là. Et il traînait. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Voilà, il est venu chanter. Je me rappelle, je me suis dit, oh, il a la même voix que le chanteur. Oh, tiens, c'est lui. Voilà. Et donc, on est devenu amis. Et il nous a fait cette confiance formidable de nous donner... ou de nous prêter, hein, parce que c'est pas un don, son fonds d'archives qui concernait les Salles Majesté. Alors moi, la question que j'ai, c'est comment t'as conservé ça, pourquoi t'as gardé les choses, qu'est-ce que t'as gardé de toi, qu'est-ce que ça dit du groupe, etc.
En fait, comment j'ai conservé ça, je dirais un peu en tas. Déjà, j'avais tout mis ça comme ça. Pourquoi je les ai gardés? Parce que c'est une période de ma vie, et puis en plus je suis pas très rangé, donc en même temps ça m'arrangeait. Et en fait, quand j'ai été fouillé là-dedans, j'ai enlevé un peu la poussière, il y a plein d'événements que j'ai revécu qui étaient intéressants, plutôt aussi agréables. Et puis, je me suis rendu compte qu'au fil des années, sur ces trois décennies, l'outil, c'est-à-dire la musique, avait évolué par rapport à des cassettes que j'ai retrouvées, des CD, des supports musicaux différents. Donc, ça m'a permis de voir qu'entre le moment où j'ai commencé à faire la musique et jusqu'à maintenant, le support musical a évolué. Ce qui était intéressant aussi, c'est je trouve bien aussi qu'on puisse les conserver à ma place, parce que je pense que je suis pas doué pour ça. Et puis en plus, c'est des vieilles photos, c'est des articles qu'on oublie, c'est des éléments qu'on oublie, puis tout d'un coup, il y a un puzzle. Et en fait, je crois que le métier d'archiviste est là pour le reconstruire, ce puzzle. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc voilà. Et si je les ai prêtés... à Solveig et à Luc, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il est important de pouvoir garder une trace, que ce soit de mes archives ou les archives des autres artistes, peintres, musiciens, radio, parce que je crois que ça fait partie d'une époque, comme on disait, nous a marqué, mais qui a peut-être marqué pas mal de gens. Et je voulais dire aussi, je parlais de la collecte, parce que la collecte, en fait, c'est important, et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient des archivistes, c'était en fait les fans, qui conservaient beaucoup de choses que nous, on n'avait pas conservées. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un appel à faire là, si on veut retrouver des éléments, parce que eux, ils sont très là-dessus. C'est presque pour eux des signes, je ne sais pas comment dire le mot, mais des choses qui sont chères à eux, en fait. Donc, qui sont carrément des reliques, en fait. Voilà, des reliques. Donc, aussi, on peut aller vers cette voie-là pour récupérer ces éléments. Donc, voilà pourquoi.
Tout Denis, j'entends tout le temps dire par lui que c'est toi qui es dépositaire de la mémoire. Ça s'est fait comment?
T'es le seul à être rentré. Un petit peu comme Arnaud, dans le bordel le plus total. Voilà, en rentrant de concert, en mettant un tract ramassé, puis voilà, et puis des photos. Alors, on était un groupe qui traînait toujours avec un appareil photo, que ce soit jetable ou un truc comme ça, pour faire des conneries dans les loges, dans les hôtels, voilà. Et au fur et à mesure, il y a un tas de trucs qui se sont accumulés. Comme ça, effectivement, c'est des malles, c'est des valises, c'est des choses pareilles qu'on met dans un coin et qu'on oublie. Comme disait Arnaud, il y a des choses que j'ai rouvertes il n'y a pas longtemps, ça faisait 20 ans que ce n'était pas ouvert. Mais il y a quelque chose qui est quand même important avec tout ça, c'est que ce matin, on a entendu parler de culture et de contre-culture. Et la contre-culture, elle intervient quand? Elle intervient quand la culture peut-être se ferme un petit peu, devient trop conventionnelle, ou alors ignore une partie de ce qui se passe. Et tous les groupes là, dont on a parlé, qu'on voit passer, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, ils ont un truc en commun, c'est qu'ils ont fait un truc fort, mais qui était hors norme, qui était absolument dans aucune case. Et l'intérêt de garder le témoignage de ces choses-là, c'est de montrer que ça a existé, que ça a été fort, que ça existe encore. Moi j'avais une petite réticence quand vous m'avez parlé du projet. Je me suis dit, putain, pourvu que ça ne soit pas nostalgique. Et c'est surtout pas nostalgique. Au contraire, ça montre que c'est encore vivant. Mais,
transmission, si je pense.
Mais ouais, voilà, c'est la transmission. Les mômes qu'on croise aujourd'hui, le punk, pour eux, bah, c'est surtout parfois une image, un style de musique, mais... Il n'y a pas toujours l'ancrage parfois politique, l'ancrage de révolte, l'ancrage de dire non à certaines choses. Et avoir un témoignage que des gens aient fait cette musique avec parfois des positions extrêmes, des postures extrêmes, mais que ça ait donné quelque chose de très fort, il faut le garder. Pourquoi est-ce qu'on laisserait le droit aux gens qui s'en arrogent la légitimité d'écrire l'histoire ? L'histoire, on est tous capables de l'écrire, parce qu'on est tous capables de faire un truc à un moment qu'on a envie de montrer, de dire « Mais attends, moi, j'ai pas envie de passer par le couloir qu'on me met droit devant moi, et on me dit « Là, t'as une porte d'entrée, t'as une porte de sortie. » Non, on peut passer par plein de chemins autour et montrer qu'on le fait avec force. Donc, toutes les archives qu'on va pouvoir avoir, et moi, j'apprends des trucs. Hein, là, ça fait deux fois que je viens, il y a des groupes que je connaissais pas, il y a des trucs que je connaissais pas, et je suppose que tous les gens qu'on va croiser. Et si vous arrivez à faire cette base de données, ce sera mortel, ce sera super. Voilà.
Olivier, peut-être
non, tu veux, je préfère, parce qu'après, je vais oublier ce que je voulais dire.
Oui. C'est à toi.
Non, parce que moi, j'ai travaillé sur un projet, en fait, c'est tout bête, ça rejoint un peu ce qu'il dit, je regardais mes vieilles choses, donc tout Fly et tout ça, donc j'étais en pleine nostalgie, tout d'un coup, j'ai trouvé une cassette vidéo, je l'ai mise, et j'ai dit, waouh, et je me suis dit, merde, j'en ai qu'une. Et elle commence à fatiguer, si elle pète, je la perds. Et du coup, je me suis dit, comme je viens d'un petit département qui s'appelle les Landes, mais qui a, malgré tout, ça rejoint à ce qu'on entendait sur la Normandie, une histoire forte, qu'on a tous partagée, même si elle est des fois confidentielle, je me suis dit, je ne serai pas la seule à la perdre. Donc, ça m'a donné l'envie de faire un appel à collègues, de numériser, de sauver ça, et d'en faire une base de données sur un site internet, de sauver tous les albums, vidéos. Et puis, bon, je travaillais pour une SMA qui a suivi le projet, et ça nous a dépassé, du coup. Donc, tout ça, c'est parti. Ça a remobilisé plein de gens. Ça a remobilisé des vieux musiciens, entre guillemets, qui avaient quitté. Et il faut jouer sur l'ego. Parce que quand on fait l'appel à la collecte, moi, j'en étais. Ils sont arrivés avec toutes leurs archives. Du coup, on a fait un méga site internet. Les gens se sont recroisés. Parallèlement, on a travaillé aussi, on parle de transmission sur la scène actuelle, eh bien, on leur a fait découvrir un patrimoine d'il y a 20 ou 30 ans, de groupes de chez eux, ils hallucinaient, c'est quoi ce truc? Parce qu'avant eux, il n'y avait jamais rien eu.
C'est ça.
Eux, donc on les a mis en studio, on a travaillé avec Denis dans son studio, ils ont travaillé les morceaux, on a fait un album avant avec le groupe d'origine après, et ça a créé, la vieille génération a rencontré la nouvelle. Moi, ça m'a même dépassé. Et après, on s'est fait un docu, on a fait la totale, on a sillonné les Landes. Et c'est pour ça que ça me parle, parce qu'il y a des choses que, si on les avait perdues, parce que je suis sûr qu'il y a plein de groupes qui ont des choses incroyables, qui sont en train de pourrir dans un coin en vidéo, et s'ils la perdent, voilà. Moi, il y a des trucs, j'avais presque... Je voyais le documentaire avec la souris en fond, avec Massy en 80, ça... faut montrer ça, c'est monstrueux, rien que ça. Quoi.
Ça, c'est
et je pense que la génération actuelle, moi, je pense, n'a même pas idée que ça puisse avoir existé, quoi, franchement. Alors, au début, c'était purement égocentrique, et après, c'était parce que je voulais qu'on sauve et qu'on voit... Ouais, j'avais fait. Parce que j'ai, sur ce groupe-là, qui s'appelait Ten Cuidado à l'époque, en 90, j'ai peut-être eu une carrière. Voilà, je n'ai pas caracolé dans les charts, mais on se mangeait 150 bandes dans le 17 par an, quoi. Donc, ça, moi, j'ai envie de le dire. Et c'est le quotidien de tous les groupes qui se sont faits à la main, comme ça, et qui sont encore là pour jouer du Ted Kennedy ce soir avec les copains. Enfin, ça qui est bien.
C'est ça.
Voilà, c'est ça l'idée, non?
C'est ça, voilà, mais bon, c'est pour ça que je voulais en parler.
Oui, c'est...
Parce que ça a vraiment fédéré, et aussi le public, parce qu'on a fait un concert, et on est tous... C'est des tranches de vie, les groupes aussi, ça va au-delà de la musique, en fait. C'est ce que je me suis aperçu.
C'est J'ai une question pour Vincent, qui rejoint ce que dit Olivier. Il y a quand même un vrai intérêt... Vincent et moi, on a fait une institution qui s'appelle l'École des Chartes, où on s'intéresse plutôt aux archives institutionnelles qui souvent ne parlent pas parce qu'elles ont 300, 400 ans. Et là, il y a un vrai enjeu, il me semble, Vincent, c'est qu'on a les producteurs, enfin, quand on va voir les producteurs, ils peuvent parler. C'est-à-dire que quand on se retrouve, quand on travaille sur le 18e siècle, on se retrouve avec son fonds d'archives, et on a des photos, enfin des photos ou des tableaux. Ben, on ne peut pas trop les identifier parce que les gens ne peuvent pas parler. Donc là, on entend bien avec, on reviendra à Michel, mais Monique, Denis, Olivier, même toi, qu'il y a un vrai travail supplémentaire en plus de faire parler. En fait, ce qu'on voudrait derrière maintenant, c'est que vous reveniez voir vos fonds qu'on a rangés, parce qu'on a fait notre boulot derrière, et que vous nous les fassiez. Tu vois, il y a des photos, il y a des photos de mariage ou de je ne sais pas quoi, de fête dans ton fond. Ben nous, à part Arnaud, qu'on reconnaît plutôt bien parce qu'il avait à peu près autant de cheveux. Oui, voilà. Tout le reste, on ne sait pas qui c'est. Donc, mais il y a un vrai défi, il me semble, Vincent, d'avoir la chance que le producteur peut parler.
Il est toujours vivant.
Il peut témoigner.
Oui, c'est un peu ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a une mémoire qui est fragile. Bon, les archives, elles ont plusieurs formes. Hein. On a parlé de flyers, de choses qui étaient produites, éditées. Il y a les bandes, il y a
oui,
les archives,
cassettes,
les cassettes, voilà. Qui
tout sont... n'est pas produit, tout est...
Voilà, mais il y a aussi même des morceaux manuscrits. Voilà. Et il y a aussi les archives orales, qui sont les témoignages, en fait... Bon, c'est, je ne veux pas vous transformer en archive vivante, quoi, mais c'est important, quoi, voilà, de pouvoir contextualiser les choses, et de la même manière, hein, sur les objets, on parlait du trophée tout à l'heure, la FR3, si derrière, on ne sait pas qui c'est qui a gravé le truc...
C'est pour ça que j'ai lancé l'histoire là-dessus, parce que c'est une archive très particulière.
On perd tout le contexte, et finalement, le type qui, dans 200 ans, regarderait ça, il se dirait... Bon, bah, il y a dû avoir un archiviste qui a dû s'amuser avec son couteau. voilà. Donc, oui, je pense que c'est un. Mais on le voit, c'est un gros boulot. Quand on voit. Enfin, j'avais pas vu les DIMAB, en fait. J'étais venu voir Pierre au moment où c'était encore dans les cartons. Et là, je vois ça, c'est en DIMAB, le plan de classement et tout. C'est déjà beaucoup plus compréhensible, même pour un néophyte, quoi. Donc, c'est. On n'est plus sur. Voilà, dans le magma archivistique, on a donné de l'ordre, du classement, quoi. C'est-à-dire que dans 50 ans, quelqu'un qui viendrait regarder ça, il comprendrait tout de suite de ce dont il s'agit. Et ça demande du temps. Les enquêtes orales, c'est un projet à part entière, je pense. Alors, maintenant, je ne suis plus dans les archives, je suis dans un musée. Mais du coup, je me dis, tant qu'à faire, il y a peut-être aussi des objets à collecter, emblématiques du punk. Enfin, on a parlé de do it yourself tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'il y a même des instruments, il y a des trucs qui marquent, quoi. On est dans la musique, donc ça peut être intéressant. Bon, voilà, moi, je pense que c'est une base de données, ça permet de mettre en relation tous les supports, et je pense que c'est voilà, des projets par an. Voilà.
Ce que je voulais aussi, moi l'impression que j'ai au bout de 2-3 ans de projet, c'est que les archives, ça crée beaucoup de liens, en fait, entre nous. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée au punk. C'est parce qu'un jour, il y avait un squat qui s'appelait La Miroiterie. Qui allait...
Ouais,
ça va être de ta faute, ouais. Qui allait disparaître. Et j'ai eu une espèce... C'était un endroit que je fréquentais. Et j'ai eu une espèce de... Je me suis dit, mais leurs archives vont disparaître. Et c'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Et que, ben... Tu m'as tout donné, en fait.
Moi, j'ai tout donné.
Non, mais j'ai eu accès à... en permanence. Mais donc, j'ai eu accès à tout le... Alors, Bernard, qui a fait une performance la dernière fois, m'a donné beaucoup de dossiers de contentieux juridiques. En fait, c'est comme ça que j'ai récupéré le contentieux.
Beaucoup de procès.
Beaucoup de procès.
Peut-être plus de procès que de concerts, mais ça, c'est une autre histoire.
Mais enfin, les procès, c'est des archives aussi pour nous. Voilà, j'ai récupéré, je ne sais pas, 3500 flyers que j'ai numérisés un samedi après-midi avec une télécommande d'appareil photo. Et il n'y a pas tout. Et alors, avec tout le travail dont je ne parle même pas, parce que sur les flyers, donc la miroiterie était en activité depuis 99, quand sur le flyer, il y a marqué lundi 31. Voilà, si on veut faire une chronologie, bah, on est vachement... Bon, souvent, il y a la date, mais il n'y a jamais l'année, en fait. Il n'y a jamais l'année.
Il y a tout un fond photographique aussi qu'on a réalisé sur les peintures, les graphes, etc. Parce que c'est une archive certes éphémère, mais fallait bien la fixer sur un support. C'est-à-dire que c'est un endroit particulier avec une esthétique, etc., une forme artistique particulière. Et on a immortalisé à un tenté, hein, entendons-nous bien, ce que pouvait être la miroiterie, donc avec les peintures murales, etc.
Voilà, et puis on avait mené pas mal d'entretiens dont on ne s'est pas servi pour l'instant, hein, qui sont précieusement gardés. Mais c'est vrai que les archives, c'est du vrai lien. C'est grâce à ça, il me semble qu'on est... Enfin, à cette table, on est tous réunis. Monique, le lien, il s'est fait avec les archives de la radio. Arnaud aussi, parce qu'en fait, et puis c'est une preuve, enfin, tu nous dis merci, mais en fait c'est merci à vous, parce que c'est une grosse preuve de confiance de nous donner votre vie dans les mains. C'est quand même, on en est très conscient que c'est quelque chose de très important. Et voilà, donc avec tous les problèmes dont je parle même pas, de qu'est-ce qu'on fait comme Hyacinthe, je sais pas où elle est partie,
elle est là-bas.
Qu'est-ce qu'on fait comme convention de prêt entre qui ? L'université parce qu'elle porte le projet ou le projet ? Et puis, donc ça, on a réglé. Pour l'instant, on a fait à l'amiable parce qu'on se connaît bien. On a fait un mot comme quoi j'attestais avoir reçu, je ne sais plus combien, 48 cartons et demi. Et on va t'en rendre 20 qui ne nous intéressaient pas maintenant qu'on les a désherbés. Voilà, on les a quand même. On te rend 20 cartons neufs, tu vois. Mais donc on essaie de faire aussi, on bricole un peu pour l'instant, puis on espère vraiment qu'on va arriver à se développer du point de vue des archives, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, numérisées. Hein. Ça sera une autre Valérie, reviendra l'année prochaine, nous parler de comment on va faire avec tous les documents numérisés qu'on aura récupérés. Puis on espère que ça sera un socle solide pour s'occuper de cultures alternatives, parce que ça nous paraît vraiment important. Voilà, Luc.
Oui, il faudrait faire parler Michel.
Ben oui, j'allais lui poser la question. Moi, je voulais savoir, Michel, avoir ton sentiment justement par rapport à la miroite, mais plus largement peut-être par rapport à ta trajectoire à toi. Quelle importance tu accordes à ces traces du passé ? Est-ce que tu parce que Solveig dit tu nous as donné des choses, mais donc tu les avais conservées.
Alors moi, je suis un maniaco-dépressif. Hein, je garde tout. Déjà, je ne suis pas musicien. Hein, ces gens-là, je les aime pas beaucoup. Je suis artiste peintre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis artiste peintre, illustrateur, et durant pas mal de décennies, j'ai été organisateur de concerts. Alors moi, je garde tout. Donc le moindre dessin, le moindre croquis, j'aime bien. Enfin, chez moi, je peux même plus y entrer tellement il y en a partout. C'est bien simple. Il y a des choses qui débordent. La miroiterie, c'est simple parce que. Parce qu'en plus, il n'y avait pas un concours de flyers chaque jour. Hein, il y avait quatre groupes qui passaient tous les jours à la miroiterie. Donc, c'est autant de flyers qu'il faut garder. Donc, les mecs, ils sont gueulés. Solveig a raison. Ouais, concert le 11 novembre. Moi, je les insultais. Il faut mettre l'année aussi. C'est important de mettre l'année. Parce qu'après, on ne sait plus. Même moi, il y a tellement de concerts qui passent. On veut savoir quelle année ils sont passés, ces cons-là. Toi. Et puis, c'était un concours. Niveau artistique, je dois demander de faire des beaux flyers en tant que dessinateur, toi, parce qu'il y en a qui des flyers à la punk gribouillés sur un coin de bar bourré, quoi. Bon, toi, ce que je veux dire. Et puis, il y a des gens qui se prennent vraiment la tête à faire des beaux flyers hauts en couleur de la création, quoi. Donc, j'ai tout gardé. Je ne sais pas pourquoi. Je garde tout. Je suis même collectionneur de. Je descends dans les catacombes de Paris depuis un peu plus de 35 ans maintenant, 35 ans de carrière, c'est peut-être le dire. Et. Pareil, dans les catacombes, chacun, c'est une mode qui a toujours existé, c'est de balancer des tracts. Alors, n'importe qui parle de n'importe quoi. Je dois avoir dans les 15 000 tracts chez moi, 235 ans. Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a un il y a une alerte attentat dans le bâtiment à côté.
Encore c'est pas moi. C'est pas moi.
Il faut évacuer tranquillement, on va pas passer par
donc on arrête, on arrête la journée là.
On prend une minute parce que en fait la journée est finie. Donc écoutez, je vous propose qu'on va, il faut qu'on s'organise, c'était pas prévu comme ça. On se rejoint vers 19h30 à FGO, Barbara, pour on va chanter tous ensemble à défaut de vu qu'on n'a plus le droit de parler.
La partie festive.